album Seven. C'est toujours un moment particulier pour moi de t'accueillir parce qu'on a partagé beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Et c'est vrai qu'FG a été dès le départ auprès de toi dans ta carrière. Et en tous les cas, merci à toi.
Merci beaucoup. C'était un plaisir, comme d'habitude.
Merci, David.
Septembre 2021. Antoine Baduel reçoit Joachim Garraud.
Alors si on devait faire la photo de famille des meilleurs artistes électro du moment, ceux qui ont marqué l'été, eh bien ressembleraient au line-up du Festival Electric Park qui se tiendra ce week-end à Château aux portes de la capitale. Son gourou, le père spirituel, n'est autre que mon ami Joachim Garraud, celui qui ce soir a bravé le soleil pour monter jusqu'au premier étage de la rue de Rivoli dans nos studios pour être à mes côtés. Bonsoir Joachim,
salut,
comment
Antoine.
Vas-tu?
Bah, toujours un plaisir d'être avec toi.
Un plaisir partagé, surtout qu'on va maintenant faire un petit cours de mathématiques. 5 scènes, 70 artistes, 3 attractions. Voilà en tous les cas pour les chiffres magiques d'Electric Park.
Et deux jours.
Ouais. Clairement, le festival de la rentrée en Ile-de-France, c'est aussi ton bébé, hein, c'est ta chose. Alors j'imagine que cette année a une saveur particulière après l'année et demie de blackout dû au Covid.
C'est la 11e édition, c'est la première année où on va être sold out. Et effectivement, c'est la première fois où on est sur deux jours. Et c'est la suite d'une grande frustration, puisque évidemment, l'année dernière, on était annulé quelques jours avant le fait qu'on pouvait faire le festival. Donc je suis allé jusqu'au bout, quoi. Mais voilà.
Alors les clubs ont rouvert avant l'été et qu'on se le dise, le public a répondu présent, aussi bien au niveau des clubs qu'au niveau des festivals, des open air. Un besoin de faire la fête et de se lâcher. Est-ce que l'édition 2021 Est-ce que l'édition 2021 d'Electric Park, c'est ça, miser sur une communion autour des meilleurs artistes du moment?
C'est exactement ça. Hein. C'est faire la fête. C'est deux jours de fête non-stop. Comme tu l'as dit, c'est 5 scènes. C'est plus de 80 artistes. C'est plein de nouveaux talents puisqu'on a fait aussi des concours warm-up. On a quand même 5 nouvelles personnes qui vont pour la première fois mixer, non pas dans leur chambre, mais devant un public de 10 à 20 000 personnes. C'est quand même génial. Et puis, bah, comme tu l'as dit, ça va de gens que vous connaissez très bien ici. Mon ami Bob Sinclair, Offenbach, Koons. Mais tu vois, j'ai pris aussi ma petite gratte parce qu'il y en a quand même 70. Tu vois. Je vais pas toutes les faire, mais dans les gens dont je suis fier d'accueillir cette année, il y a Purple Disco Machine,
très bien,
que tu connais aussi, Paul and Pan, Vladimir Cauchemar. Donc tu vois, c'est très de Bloody Beetroots. Et on finit par exemple avec Mandragora sur la scène Yellow. C'est un peu trans, tu vois. Donc j'aime bien mélanger un peu tout ça.
Ouais,
de musique.
Panache en fait. Alors le line-up, on se le dit, hein, il d'un côté, il ressemble à tous les bangers de l'été, c'est-à-dire c'est vraiment le miroir.
Ça a condensé, c'est un espèce de best-of si tu veux. Voilà.
Allez. Alors au niveau des têtes d'affiche, celui dont t'es le plus fier, c'est Purple, t'avais l'air de dire, non?
Allez, après, bon, je suis content que Buzzy P vienne jouer avec Molécule, parce qu'en plus, on fait des back-to-back inédits. Et Buzzy P, Molécule, je trouve que la combinaison est géniale et on est les premiers à le faire. Et après, on a une scène qui est plus hard musique, avec des gens comme Bilix et des gens comme ça, qui aussi sont représentatifs d'une certaine scène de musique électronique. Et je suis toujours fier aussi d'accueillir ces artistes-là pour la première fois en France et de les mettre dans une combinaison d'un festival multi-musique.
Alors on parlait de cet Electric Park que tu connais bien, Joachim, les festivals se réinventent un peu partout dans le monde, hein, autour de l'écologie, de la proximité, d'un retour aussi aux sources musicales. Est-ce que ce sont des débats que tu suis et justement qui te parlent aussi en tant qu'artiste?
Oui, alors moi ça me parle en tant qu'artiste, oui, et ça me parle aussi beaucoup plus en termes de producteur, parce que quand tu es un producteur, tu peux faire attention à la trace écologique de ton passage, de ton festival dans un parc, parce que moi j'ai la chance d'avoir le parc des impressionnistes à Château, qui est le lieu mythique où Claude Monet et Van Gogh sont venus faire de la peinture. Alors autant te dire que je n'ai pas le droit de déplacer une feuille ou de couper une seule branche. Donc moi, au niveau de l'écologie, je peux dire que je respecte l'intégralité. Je suis même obligé de mettre des plaques spécifiques pour protéger la pelouse parce qu'elle est classée. Voilà.
Ah ouais.
Donc on fait très attention à ça. Donc oui, on fait attention à l'empreinte écologique et puis on fait attention au recyclage des déchets, toutes ces choses-là. Je fais vraiment attention à ça parce que c'est important aussi de faire la fête dans des bonnes conditions et pas polluer un lieu qui est super bucolique, tu vois.
Alors bucolique et en même temps éclectique, parce que moi je trouve que cette année vraiment il y a un parti pris, c'est-à-dire d'abord un programme plus orienté house, tu le disais, mais aussi des artistes techno avec une scène underground qui est très présente. Est-ce qu'on va pouvoir découvrir justement aussi certains artistes qui commencent à buzzer dans leur ville, dans leur pays, et qui ne sont pas encore venus en France?
Alors non, alors je vais être très franc avec toi, j'ai beaucoup 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 de Français. Aussi parce que j'avais prévu un peu le coup avec ces normes de vaccins, de voyages. Donc si tu veux, c'est aussi pour ça qu'on est un festival qui se tient avec autant d'artistes et qu'il y a beaucoup de festivals qui malheureusement ont annulé au mois de septembre en région parisienne parce qu'ils avaient 60% de gens programmés qui venaient de l'étranger, donc impossible de venir, difficile, les voyages étaient difficiles. Donc moi, j'ai volontairement l'année dernière dit, on va recentrer plus dans nos talents locaux, régionaux, on va aller chercher des gens à Montpellier, à Lyon, à Marseille, parce qu'il y a des talents extraordinaire en France dans tout style de musique. Et vous êtes bien placé pour le savoir à FG, parce que vous êtes quand même un creuset de talents qu'elle est chercher dans les régions. On fait le même job, Antoine et moi, c'est la même chose. Et on est partenaires là-dessus.
C'est là qu'est le sourcing. Alors, Jo, on t'a vu à l'offensive la dernière saison, hein, par exemple, pour défendre les artistes en partenariat avec FG, l'opération 12-13 juin, les DJ menacés par cette crise sanitaire. T'es dans quel état d'esprit pour cette nouvelle saison? C'est-à-dire, une fois que les open air vont se refermer, puisque évidemment, la météo sera plus là pour permettre des soirées en plein air, t'es plutôt optimiste, confiant dans le retour à la normale pour la scène électro?
Moi, je suis très optimiste à long terme. C'est-à-dire que il faut pas se dire qu'en décembre, on va avoir des jauges à nouveau à 100% et sans possible fermeture ou en tout cas alerte. Mais en tout cas, moi, je suis positif à long terme et je me dis, on s'est battu pendant 20 ans pour que cette musique existe et qu'on sorte de l'underground et qu'on porte la fête à un niveau pour le plus de monde avec un éclectisme dans la musique. Eh bien, il faut continuer à se battre. C'est compliqué en ce moment. Je dis ça aux promoteurs, je dis ça à tous les gens qui travaillent dans les clubs et tout ça. Je sais que c'est compliqué la situation, mais je pense qu'on fait tous un super métier. On apporte du rêve aux gens, on leur fait couvrir des artistes, on leur fait passer un moment extraordinaire dans leur vie. Il faut continuer à se battre, même si c'est difficile.
Kungs, Polo & Pan, Offenbach, Pedro Winter, Molécule, Bob Sinclair, Vladimir Cauchemar et paraît-il Joachim Garraud qui devrait aussi jouer.
Exactement.
Sur scène.
Et il joue deux fois en plus. Et le mec, il se sert quand
c'est
même.
Pas possible. Il couche.
Le samedi, le dimanche, oui, il couche. Je crois qu'il doit coucher avec le producteur.
Alors, en tous les cas, c'est ainsi se décline l'affiche de l'édition 2021 d'Electric Park. Le festival aura lieu samedi et dimanche prochain à Chatou, sur l'île des impressionnistes près de Paris. Les infos, vous les retrouvez sur electricpark.com.
Voilà,
merci,
parfait.
Mon ami.
Merci.
Décembre 2020. Antoine Baduel reçoit The Picards Brothers.
Et ce soir, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir deux talents français comme on aime tant vous en présenter. Ils s'appellent les Picard Brothers. Jusque-là, c'est dans l'ombre que s'exprimait leur talent musical. Les Picard Brothers, ce sont deux producteurs qui sont vite passés du solo de guitare en région parisienne à la production de gros hits à Los Angeles. Alors, une carrière absolument incroyable, me direz-vous? Oui, ils ont bossé pour des stars comme Diplo, par exemple, avec le fameux Electricity avec Dua Lipa, mais également pour Mark Ronson et plus récemment sur l'album Madame X de Madonna. Décidément, beaucoup de Français quand même qui ont travaillé, parce qu'il y a aussi mon ami Mirwes qui a bossé dessus. Alors, en tous les cas, c'est en solo qu'il se lance désormais et dans la house music avec un single qui s'appelle It's Not Over. Et vous me l'accorderez, c'est du son qui est tellement bon que ça nous fait très plaisir de les inviter ce soir en direct sur Radio FG, les Picard Brothers. Maxime, Clément, bonsoir, bienvenue à tous les deux.
Bonsoir.
Alors, originaire de Seine-et-Marne, originaire de Coulommiers, hein, on le disait tout à l'heure hors antenne, puis passé par Los Angeles, un nom, les Picard Brothers. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est la proximité de la Picardie? C'est racontez-nous, première ligne de la fiche Wikipédia, on veut savoir.
Ça n'a rien à voir. Il se trouve qu'on est vraiment frères et que Picard, c'est notre nom de famille.
C'est votre nom de famille, donc c'est tout simplement les Picard Brothers. Étrange qu'on vous ait jamais reçu par le passé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes d'excellents producteurs. Cela dit, c'est vrai que vous étiez plutôt dans un univers, j'allais dire pop, R&B, urbain, et que vous vous amusiez et que vous y excelliez d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a conduit du coup à l'électro, à la house que vous défendez aujourd'hui, et finalement, vous qui kiffez tant les instruments acoustiques?
On s'est retrouvé à produire pour pas mal d'artistes et il y a un certain moment on s'est dit maintenant on a envie de faire exactement ce qu'on veut et pas avoir de choses à valider exactement.
Bien sûr.
Et nous notre truc ça a toujours été ce son un peu French House de cette époque-là et on s'est dit écoute, on est français, c'est la musique qu'on aime.
On y va. Et alors, je l'ai dit, votre parcours est marqué de productions incroyables. Hein. Diplo, Madonna, ça a commencé comment pour vous? Je crois que ça s'est passé avec Diplo, hein, c'est ça?
Ouais, tout à fait. En fait, c'était un peu un hasard presque au départ, puisque Maxime avait eu un contact par mail avec Diplo. Et on avait envoyé quelques instrus, quelques morceaux, et il a répondu presque instantanément. Qui trouvait ça bien, qu'il était intéressé de nous rencontrer. Il se trouve qu'il jouait à Paris au Social Club à l'époque, une semaine après, je crois.
Devenu le sacré aujourd'hui.
Tout à fait. Et du coup, on l'a rencontré à cette occasion et ça s'est fait très vite. Ensuite, on a collaboré avec lui sur pas mal de choses et maintenant, ça va faire 7 ans qu'on collabore avec lui et donc avec tous ces artistes que vous avez cités avant.
Alors, on va s'écouter justement votre single It's Not Over et on est de retour dans un instant avec les Picard Brothers qui sont donc mes invités ce soir et qui vont nous parler à la fois de leur parcours incroyable mais également de cette nouvelle production. It's Not Over, leur single, les Picard Brothers qui sont mes invités en direct ce soir dans le studio de Radio FG. Les Picard Brothers qui sont mes invités, ce duo, c'est deux frères français qui ont produit notamment des morceaux pour le dernier album de Madonna, Madame X, et qui sont très très proches de Diplo pour lequel ils collaborent depuis 7 ans. Alors, ce travail de hitmaker, ça vous a conduit à une carrière solo. Ça s'est fait rapidement, je veux dire, avec cette envie de créer vos propres œuvres. Est-ce qu'il y avait une crainte aussi de perdre quelque chose par rapport à tout ce travail que vous aviez entrepris, ou au contraire, c'était vraiment deux démarches complètement distinctes, celle de continuer à travailler pour des gros artistes internationaux et en même temps d'avoir votre précaré, votre espace?
Moi, je crois qu'on avait vraiment envie d'avoir cette presque récréation pour nous, de faire la musique qui voilà, cette musique qui nous appartient,
ouais.
Sur laquelle on, voilà, on a vraiment la main du début à la fin et qu'on peut vraiment réaliser.
Ouais. Alors c'est quoi d'ailleurs la suite? Ça va être de multiplier les productions avec d'autres artistes, parce que forcément quand on travaille pour des artistes comme Madonna, comme Diplo, forcément ça peut aussi donner l'envie ou l'idée de les inviter à faire un featuring ou des choses comme ça. Est-ce que ça justement c'est quelque chose, une option que vous gardez, ou au contraire vos projets solo c'est vraiment à part?
C'est pas forcément à part, mais bon, on a besoin de faire nos gammes encore, j'imagine, et puis dans le futur on espère bien pouvoir joindre un peu plus les deux, notre activité de producteur et d'artiste, quoi.
Alors vous avez sorti It's Not Over qu'on vient d'écouter, mais aussi un remix de Flume, The Difference, qu'on a eu le plaisir de jouer en avant-première d'ailleurs sur FG. Merci. J'ai lu que vous étiez fan des Daft Punk, mais alors c'est quelque chose qu'on peut-être entendre par moment dans It's Not Over, mais pas dans vos autres productions. Qu'est-ce qui nourrit et influence aujourd'hui vos productions? Il y a un style de house en particulier que vous aimez? Parce qu'aujourd'hui la house c'est devenu extrêmement large, c'est vraiment un genre majeur. Il y a de la disco house, il y a de la tech house, il y a même il y a toujours cette house filtrée française qui est là depuis 20 ans. Qu'est-ce qui vous nourrit le plus aujourd'hui? C'est qui les artistes qui vous influencent?
Disclosure, pour qui on vient de faire un remix qui sort demain, évidemment.
Ah, très bien.
Et il y a énormément d'artistes français, Dombreski, Boston Bun, tous qui sont un peu nos amis aussi, qu'on fréquente assez souvent quand on est ici.
En tous les cas, retenez bien leur nom, Picard Brothers. Ils ont écrit, composé pour Diplo, Mark Ronson, Beyoncé ou encore Madonna. Les Picard Brothers qui auraient pu rester dans l'ombre comme beaucoup de hitmakers, mais ils ont préféré se lancer dans l'arène. Et le résultat, c'est notamment un très bon single house qu'on vous a fait découvrir qui s'appelle It's Not Over. Merci en tous les cas,
merci,
les
merci
amis, Maxime, Clément, reçu. C'était un plaisir de vous accueillir.
Mai 2013, Antoine Baduel reçoit Miguel Campbell.
Et ce soir, mon invité, c'est le DJ producteur britannique Miguel Campbell. Allez, un petit lancement à la Wikipédia. C'est à Leeds, la ville du comté du Yorkshire, qu'a grandi Miguel Campbell, nominé au dernier Ibiza DJ Awards. Il est ce qu'on appelle un newcomer, une potentielle star de l'électro, mais surtout sa musique électro-funk et disco est classieuse. Irrésistible, à l'image de son album Back in the Flight School, Miguel est l'un des DJ qui sera présent au festival Marvelous Island. Et ce soir, c'est mon invité de la Happy Hour, Miguel. Good evening, how you doing?
Hi, I'm fine, thank you. How are you?
I'm very good, thank you. Alors Miguel, t'es invité à cette première édition du festival Marvelous Island aux côtés d'artistes prestigieux de la scène deep et minimal. 100 DJs sont invités. J'imagine que pour un DJ comme toi qui aime la France en plus, ça doit être un très très bel événement.
Yes, of course. I mean,
oui, bien sûr. Je veux dire, c'est comme un rêve qui devient réalité pour moi. À chaque fois que je viens à Paris ou dans d'autres villes de France, c'est génial parce que c'est un pays qui m'influence beaucoup et ça influence la musique que je fais. Donc, avoir le retour du public et la possibilité de me produire dans un tel événement, c'est vraiment génial.
Alors, ta marque de fabrique qu'on a pu trouver dans ton dernier album, Back in the Flight School, est une électro très funky, parfois disco. C'est ce son-là que tu vas distiller à Marvelous Island, ou tu changes d'univers quand tu joues dans les festivals?
Ah, c'est une bonne question. Et je te répondrai que j'essaye juste de faire mon truc à moi, de jouer mon propre son qui est, c'est vrai, un peu différent de celui des autres DJ. Donc oui, je cultive cette différence. Parfois, je mets des influences hip-hop dans mes sets, et d'autres fois, c'est des sons soulful et très vocaux. Voilà, j'essaie de créer un petit voyage musical et je vois ce que ça donne. Je planifie jamais à l'avance pour pouvoir mieux sentir les réactions du public.
Et à l'image de ton album, tu conçois ton set comme un voyage musical quelque part.
Ouais, c'est ça. Et surtout, un set, c'est pour moi l'occasion, non pas seulement de jouer mes propres productions, mais aussi les titres de mes potes, de mes collègues. Et je crois que c'est un bon moyen de montrer qui je suis, ce que je fais. Bon, sans être trop centré sur mes seuls titres.
Alors tiens, puisque je parlais de ton album Back in Flight School, ça m'amène à tes productions. Est-ce que tu vas présenter quelques nouveautés pendant le festival
Marvelous Island.
Ouais, t'as raison. Je vais présenter quelques titres. En fait, je suis en train de bosser actuellement sur mon nouvel album. Et c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir jouer quelques-uns de ces titres pendant le festival. Et puis sinon, j'ai des morceaux signés sur mon album Outcross Records.
Miguel Campbell, qui est notre invité ce soir de la Happy Hour, il sera d'ailleurs au festival Marvelous Island. Alors Miguel, tu vas te produire à ce festival Marvelous Island à Paris, et ce sera sur la scène du label anglais Hot Creations, très très réputé pour ses productions de Deep House, que tu seras. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce label? Comment est-ce que ce label travaille avec les artistes comme toi?
Ah, tu sais, en fait c'est comme une grande famille. On partage les mêmes valeurs. Et c'est génial, parce que au moment où ma musique commence à être plus écoutée, c'est un label qui me donne l'opportunité de la partager avec le plus de monde possible. Donc je me sens vraiment chanceux. Et je suis sûr que d'autres DJ du label partagent cet avis. Et c'est cool de voir cette plateforme qui est Hot Creations devenir de plus en plus populaire. Ah, je suis vraiment fier d'en faire partie.
Alors tu tournes beaucoup autour du monde, hein, Miguel, notamment aux États-Unis. Est-ce que toi aussi tu constates ce nouvel engouement du public pour les sonorités Deep House?
Ouais, bien sûr. Je fais beaucoup de clubs dans le monde, et c'est vrai qu'il y a un public de plus en plus large et divers qui tombe sous le charme de notre musique. Pendant longtemps, il y avait le rap, le hip-hop qui dominait la dance music, mais les choses changent. Il y a beaucoup d'artistes hip-hop qui viennent vers la house music, celle que je joue. Et plus on est de fous, plus on rit.
Alors, je me souviens, Miguel, que tu avais été nominé lors des DJ Awards d'Ibiza. À propos d'Ibiza, justement, est-ce que tu vas y jouer cet été? Est-ce que tu as déjà ta résidence de prévu?
Ouais, évidemment que j'y jouerai cet été. Mais je n'aurai pas de résidence, sauf celle du label Hot Creations. Donc, je me produirai notamment au DC 10 pour les soirées Paradise. J'ai aussi des choses de prévues au Sean Keys avec mon label Outcross. Et puis, il y aura des beach parties, des boat parties. Donc, ça va être un très très bel été et j'ai vraiment hâte d'y être.
Miguel Campbell, nouveau talent de la scène électro, vous le retrouvez sur la scène du festival Marvelous Island, un événement avec FG aux côtés de Vankelmuth, Guy Gerber et Loco Dice. En tout cas, ça va se dérouler tout au long de cette semaine sur l'île de la Porte Jaune à Paris. Plus d'infos sur marvelousisland.fr. Thank you, Miguel.
No, thank you. I look forward to seeing you soon.
Mars 2022, Antoine Baduel reçoit Djibril Cissé.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Djibril Cissé, ancien footballeur international, DJ, consultant télé. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir une ancienne gloire du ballon rond en France ou encore en Grande-Bretagne. Désormais, c'est un véritable touche-à-tout, en pleine réussite, aussi bien dans la mode que dans le sport, à la télévision, mais aussi derrière les platines. Sa passion depuis toujours, Djibril Cissé est mon invité ce soir de la Happy Hour FG. Bonsoir Djibril, comment vas-tu?
Bonsoir Antoine, merci de me réinviter, parce que c'est la deuxième et c'est toujours un plaisir.
Et c'est le comeback, c'est ce que j'allais te dire. Alors avant d'évoquer le DJing, Djibril, avec toi parlons de tes nombreuses activités. Il y a les sportifs qui ont peur du vide, ou plutôt de la page blanche après leur carrière. Toi c'est l'inverse, on dirait que tu as un plein d'activités. Est-ce que tu avais préparé ça un petit peu avant la fin de ta carrière sportive? Parce que c'est intéressant de voir que cette après-carrière est presque plus remplie que l'époque de la carrière sportive.
Ouais, je fais plus de choses que quand j'étais footballeur professionnel, parce que j'avais justement le mot professionnel veut tout dire, parce que c'était ma pression, ce qui me faisait vivre, ce qui me faisait vivre ma famille aussi. Donc j'avais des choses que je pouvais pas faire, notamment mixer et me produire en club. Là voilà, le football malheureusement est terminé, mais j'ai la chance de faire plein de choses. Et c'est cool aussi.
Et parlons-en, parce que parmi tes activités, il y a toujours la mode. On t'a vu défiler, même durant la Fashion Week parisienne. Comment tu t'es retrouvé à défiler pour Günther? Tu as toujours été attiré, toi, par la mode, hein?
Ah ouais, tout le temps.
Il faut
tout
le dire.
Temps, j'ai toujours été, même dans le football, voilà, j'essaie de ramener un peu de couleur, un peu de folie dans les paires de chaussures, dans les coiffures. J'essayais toujours d'être un peu original. Et la mode, oui, ça a toujours fait partie.
Et contrairement à certains sportifs, tu as gardé quand même la forme.
Ah oui, j'essaye, c'est important.
Pas besoin de faire comme j'aime.fr. Il faut préciser, notre Djibril est en pleine forme. Il peut donc défiler. Alors, tu es aussi chroniqueur télé, hein, pour la chaîne L'Équipe sur la TNT. Le Cap, comment ça se passe, cette expérience télé, Djibril? C'est quelque chose qui te plaît? Parce que là, pour le coup... Ouais. J'allais dire c'est un autre exercice, mais quelque part, tu en tant que sportif, forcément, il y a eu des moments où tu as dû en vouloir à des chroniqueurs ou à des journalistes qui ont pu dire parfois des horreurs sur la manière dont tu avais pu faire un match ou jouer. Là, tu es passé de l'autre côté, tu es passé du côté obscur de la force. Tu le vis comment, justement, ce...
Non, parce que je suis plus... Je me mets plus dans le... du côté ex-sportif qui essaye d'expliquer comment ça se passe. Un attaquant qui rate un but, ce qui se passe dans sa tête, sur la prochaine action, sur l'action, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va retenter sa chance ou pas. Je suis pas journaliste, j'ai pas les diplômes pour déjà. Je suis plus consultant et je donne ma patte plus de sportif.
Alors à côté, tu as toujours un pied sur les terrains de foot puisque tu es aussi coach pour les jeunes attaquants de l'OM.
C'est ça.
Nos amis marseillais qui nous écoutent sur le 100.5 doivent être très heureux. Alors tu travailles avec des ados pour la plupart. Ils sont comment? Ils écoutent bien le coach Cissé? Et ça te plaît toi de coacher surtout dans le club de ton cœur?
Ouais, Marseille, un club très important. Après, il y en a d'autres. Auxerre aussi, c'est là où tout a commencé. Donc, un club important. Ils sont nouvelle génération. Ils sont un peu pressés. Ils sont un peu. Ils veulent faire tout vite. Mais en général, c'est des bons garçons et ça, je vois la progression toutes les semaines. Donc
et en tant que coach, ça veut dire que tu habites entre Paris et Marseille aujourd'hui?
Non, je vis en Corse, moi.
Ah, tu vis en Corse.
J'ai un peu de déplacement, mais ça va.
Alors, place à la musique à présent, qu'on comprenne et surtout qu'on apprenne mieux à connaître DJ Djibril Cissé. C'est bien parce que dans ton prénom, tu étais déjà prédestiné. Tu avais déjà les deux premières lettres. Tout était prévu. Derrière les platines, c'est-à-dire Tcheba, puisque c'est ton nom de DJ. Comment t'expliques alors, souvent, parce que tu dis que c'est ta passion depuis toujours. Ce qui est vrai, c'est une passion qui est extrêmement sincère. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte la première fois que tu es venu à la radio. T'en parles avec des étoiles dans les yeux. Tu fais ça depuis longtemps pour que nos auditeurs comprennent. Raconte-nous un petit peu d'où vient cette passion des platines.
Alors ça a commencé, j'avais 14 ans à peu près. Mon frère m'a amené dans un club. Il n'aurait pas dû d'ailleurs.
C'était lequel?
On n'a même pas les jeunes à 14 ans en club. Je le balance, mais bon. Mais je le remercie
balance,
aussi.
Balance le club alors mais pour le coup.
La Chourescaya, ça s'appelait à l'époque, dans le sud de la France. Et voilà, la boîte allait terminer, allait fermer définitivement. Et mon frère a voulu impérativement me faire découvrir ce club. Et je le remercie parce que déjà c'était une expérience de folie et c'est ce jour-là où j'ai été vraiment fasciné par le DJ qui s'amusait un peu avec les humeurs des gens. Je voyais il mettait un genre de musique, je voyais les gens se comporter d'une façon, il mettait un autre genre de musique, les gens se comportaient d'une autre façon.
Et bien sûr.
Et ça m'a fasciné et après j'ai toujours été fan de musique. Donc du coup je me suis équipé, j'ai acheté les vinyles à l'époque et j'ai commencé comme ça et après j'ai suivi la technologie et la passion est restée et aujourd'hui c'est devenu plus qu'une passion.
Alors tu mixes régulièrement, on va en parler, tu sors également des sons, tu produis et même parfois sur des labels assez incroyables comme Kitty sorti sur Higher Ground, le label house de Diplo, référence internationale. Alors comment on se retrouve sur le label d'un name comme ça de l'électro? Tu le connaissais d'avant, explique-nous un peu.
Diplo, c'est grand merci, grand respect à Jean Rock qui savait que j'étais vraiment fan de lui. Diplo donc fait une date au VIP club à l'époque et donc Jean Rock me sous coup du lit et me dit de venir, donc je vais et c'est là où on se rencontre avec Diplo. Après on se rend compte qu'on a plein de points en commun. Il avait un club de foot, je crois qu'il a toujours d'ailleurs, où Didier Drogba jouait dans son club. Et du coup, de fil en aiguille, on reste potes, donc on parle. Ah, t'es DJ, oui. Donc il vient faire une date en Corse à la Vianote à l'époque, donc on passe du temps ensemble. Je lui fais écouter 2-3 trucs que je me suis amusé à faire. C'était pas du tout professionnel à l'époque. Et après, je rencontre un ami à moi, DJ Pete, qui lui est vraiment un producteur avec de la bouteille, du coup. Et donc on s'amuse à faire un track. Je le présente à Diplo, Diplo le valide, mais il nous faut une voix dessus qui finirait le taf. Et donc du coup, vu que je suis très pote avec Niniola, qui est une des reines de l'Afro House, et elle est venue mettre vraiment la cerise sur le gâteau et le morceau a été signé chez Rio Grande du coup.
Autre artiste que tu connais très bien semble-t-il, c'est un ami de la radio qu'on a reçu très récemment d'ailleurs, c'est Feder. Vous allez sentir des choses ensemble parce que je sais que vous allez par exemple sur le même festival à Marseille cet été, ça sera le Summer Festival. Vous préparez des projets ensemble?
C'est prévu. On s'est rencontrés pareil sur les réseaux assez rapidement sur un son qu'il avait produit pour. Je ne me rappelle plus le nom de la chanteuse.
Mylène
Suzanne. Suzanne. Donc on s'est rencontrés comme ça et puis de fil en aiguille, on s'est vu 3-4 fois en studio, puis on est devenus potes. Puis on a travaillé 2-3 projets qui pour l'instant prennent un peu plus de temps que prévu, mais dans la musique on s'est.
Mais c'est dans le pipe.
Ouais, j'ai appris que le temps de la musique était très long.
Alors, il y a d'autres DJ français que tu connais a priori. Par exemple, le Club Azur de Kungs n'a plus de secret pour toi. C'était comment cette expérience un peu décalée de faire justement de participer au Club Azur alors qu'à l'époque tous les clubs étaient fermés.
Ouais. Ben ça aussi, pareil. Hein. Pareil, j'ai un petit message sur les réseaux. Les réseaux, c'est bien aussi. De temps en temps, c'est bien. Quand on s'en sert bien, c'est très utile. Donc on s'est répondu. Il m'a dit ouais, passe quand tu veux. Donc je suis passé et j'ai joué un peu et on s'est régalé, même s'il n'y avait pas de monde, mais il y avait beaucoup de monde en live par contre. Et ouais, un super gars.
Alors, les clubs ont rouvert depuis le 16 février. Toi, le 16 février, tu étais déjà booké. C'était pour un événement à Serre-Chevalier. Ça s'est passé comment? Tu les as trouvés comment, les gens, ce jour de réouverture, parce que ce n'était pas un jour comme les autres. On imagine qu'ils devaient être ravis de pouvoir faire la fête après cette période de jachère de clubbing. 18 mois de fermeture sur 24. T'as senti, là, tu la sens, cette espèce d'énergie qui revient dans les clubs?
Ouais, les gens ont envie de faire la fête, et j'arrive à les comprendre totalement parce que je suis le premier. J'étais le premier à bouillir et à attendre que ça réouvre. Et c'était chaud, vraiment à Serre-Chevalier, beaucoup de jeunes, mais beaucoup de jeunes très 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 festifs.
Alors pour créer un titre ou pour composer des mix pour une soirée en club, comment tu bosses en tant que DJ? Qu'est-ce qui va t'inspirer généralement? Tu écoutes beaucoup de sons, t'es un gros digger?
Ouais, j'écoute beaucoup, j'essaie de me mettre à la page parce qu'aujourd'hui la musique va beaucoup plus vite qu'à l'époque où j'étais DJ, enfin où j'ai commencé à mixer, ça allait, voilà, on avait un peu plus de temps entre les nouveautés. Là, c'est vrai que tous les jours, il y a des nouveaux sons qui sortent, il y a des très très bons remixeurs aussi qui remixent des sons tous les jours. Donc c'est faut pas perdre le fil. Après, j'ai beaucoup de potes à moi aussi qui m'aident et on s'envoie beaucoup de sons entre nous. Et du coup, ça aide, mais faut être à la page. Ouais.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres dates bientôt qu'on va pouvoir annoncer pour toi, club, festival, événement? Est-ce que là, tu commences à avoir ton line-up de l'été?
Ouais, ça avance, mais le prochain vraiment grosse date qui arrive et j'ai hâte, c'est le 21 mars, Tomorrowland Winter.
Exactement, à l'Alpe d'Huez.
Donc, gros festival et hâte de me frotter au grand, parce que là, c'est vraiment c'est la Ligue des Champions.
Ça se passe comment? Il y a deux scènes, il y a une scène unique?
Non, il y a plusieurs scènes.
Il y a plusieurs scènes.
Je sais pas combien il y en a exactement. Mais en tout cas, je sais que je suis juste avant Lucas and Steve. Pas trop mal. J'ai hâte de faire mes preuves.
Alors, dernière question, dans les vestiaires de foot, pour ta musique, il y a quelques joueurs préposés au choix des musiques ou alors il y a un petit peu de tout? Ça se passe comment quand vous étiez à l'époque dans la musique? T'étais déjà très orienté house à l'époque?
Ouais, moi je suis du sud de la France, donc à l'époque c'était très house, dance même à l'époque. C'était même pas... Il y avait la house music aussi, mais c'était plus la dance music. Le hip-hop, le mouvement hip-hop marseillais est arrivé bien après, donc récemment. Moi, j'étais vraiment dans la dance.
Ouais. Donc, en Angleterre, c'était pareil?
Angleterre, ouais, plus...
C'était plus house, là, pour le coup.
Ouais, plus house. Après, j'ai connu un peu le côté jungle, grime...
UK garage,
UK garage, UK bass.
Bien sûr, ouais.
Bassline, donc c'est plus...
Jungle, voilà, jungle.
J'écoute vraiment après, on est arrivé là-dedans. Et après, là, voilà, récemment, le mouvement afro, afro house, afro beat,
organique, Amapiano, mélodique house et tout, bien sûr. Merci à toi, Djibril.
Merci vraiment.
Djibril Cissé, qui était mon invité parmi nous ce soir sur la Happy Hour. Djibril, tu restes avec nous puisqu'on va te retrouver très bientôt dans les studios pour un mix.
Merci.
Février 2018, Antoine Baduel reçoit Petit Biscuit.
Et ce soir, mon invité, c'est Petit Biscuit. Ça fait des années qu'on vit comme un soulagement le fait que les victoires de la musique récompensent des artistes électro, parce qu'au départ, c'était pas gagné. Cette année, le plaisir est décuplé. Quand on a deux artistes qu'on aime beaucoup, qui figurent parmi les nominés, Fakir et Petit Biscuit, l'auteur des titres Sunset Lover, Waterfall ou de l'album Présence, est mon invité ce soir. Bonsoir Mehdi, comment vas-tu?
Ça va et toi?
Mais écoute, ça va bien, cette nomination aux victoires de la musique, catégorie album révélation, bien bien clôturé en quelque sorte une année très riche. Le plus kiffant, ça a été quoi pour toi au cours de cette année? La conception de l'album, sa sortie, la tournée que tu as entamée et qui se poursuit?
Bah, c'est un espèce de cercle vertueux. Il n'y a pas de choses plus kiffantes que d'autres. C'est un gros plaisir de faire de la composition. C'est un énorme plaisir de jouer toutes ces compositions devant les gens en tournée. Et ouais, les victoires, c'est juste plus une consécration. C'est comme n'importe quelle récompense, au final, ça montre que le travail que tu as fait mérite ou mérite pas quelque chose. Mais
En tous les cas, c'est la nomination qui compte en vrai.
Bah, la nomination, la prestation aussi, je pense. C'est important de jouer, de montrer ce que tu sais faire, surtout en électronique. On n'a pas trop la chance de faire ça. Et j'espère pouvoir proposer quelque chose d'original, quoi.
Alors, le jury a bon goût, hein. Notons que l'année dernière, c'est Kungs qui était reparti avec une récompense. C'est aussi la récompense des professionnels de la musique et de l'industrie, hein. Rappelons que, d'ailleurs, ce sont les professionnels qui votent. Et ça aurait de l'importance pour toi d'être salué, justement, par cette industrie? Parce que quelque part, tu l'as déjà été par le public avec tous ces clics, tous ces spams et pardon, je reprends ma phrase. Parce que quelque part, tu l'as été avec tous ces clics, toutes ces connexions sur les Spotify et toutes les plateformes.
C'est vrai, mais je reste assez neutre là-dessus. C'est évidemment un plaisir si je le suis. Et après, si je le suis pas, je pense pas que je vais pleurer, quoi. Je pense que c'est vraiment, moi en tout cas, c'est ce que je t'ai dit, la prestation, c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que voilà, au final, moi, ce que je veux faire, c'est toucher les gens et pas forcément toucher les professionnels de la musique. Je veux vraiment toucher tout le monde, en fait.
Que de chemin parcouru, rappelons-le, c'était l'année dernière, au mois de janvier, que ton titre Sunset Lover commençait à cartonner. Un an avant, sur Radio FG, c'était dans le Starter FG, Lucky Macly, Iceland avait été révélé. Il aura fallu seulement un an pour te faire connaître auprès du monde entier et te révéler cette victoire. Si tu la gagnais, ça serait aussi l'occasion finalement de te voir jouer en live. Ton nouveau single, Problems, qui arrive tout juste. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce morceau qui figure au track listing de l'album Présence?
Ouais, c'est vrai, c'est une collaboration qu'on a fait avec Lido, donc on s'est vu à Paris pour moi c'était, enfin moi Lido je le connaissais plus en tant que producteur, pas vraiment en tant que vocaliste, et il m'a fait écouter sa voix, le temps collait parfaitement à la musique qui est un peu funky. C'est aussi une empreinte que j'ai pas l'habitude d'utiliser, quelque chose de beaucoup plus funk, et ça m'a fait vraiment plaisir d'ajouter du groove comme ça à mes productions.
Mehdi, on va parler de ta tournée, parce que ta musique s'illustre pleinement, hein, sur scène avec les nombreux instruments que tu joues. C'est une électro qui est aussi fraîche que poétique, j'allais dire. Est-ce que pour ta tournée, t'as cherché justement à amener les gens vers ce côté posé, ou au contraire, est-ce que t'as voulu relooker, transformer l'album vers quelque chose de plus rythmé encore, de plus dansant?
Mais en fait, l'album représente déjà bien ça, c'est vraiment le mélange entre la poésie et le côté plus sombre, d'ailleurs les deux me représentent assez bien. Et en fait, moi en live, je cherche juste à mélanger les deux parfaitement. C'est plus compliqué quand t'as une track, que quand tu fais des mélanges entre les tracks et quand tu vas faire des transitions, etc. Et du coup, j'essaie juste de bien mélanger ça, et j'essaie de pas trop dénaturer non plus les tracks de l'album. Je pense qu'elles sont réfléchies pour trouver un certain équilibre entre ce côté plus poétique et ce côté plus dynamique. Mais il y a des tracks que je préfère jouer, je pense, c'est normal, c'est surtout quand on est en festival où t'as besoin d'une dynamique supplémentaire. Il y a des tracks dans l'album comme Présence ou Wake Up où elles ont bien cette patate que j'aime en live, quoi.
Alors, sur l'album, il y avait pas mal de featuring. Môme, qu'on connaît bien sur FG, ou Isaac Delusion, mais aussi tu nous parlais de Lido. Ce sont des artistes que avec lesquels tu as pris ton kiff, j'allais dire, à produire. Est-ce qu'il y a une ambiance comme ça dans le studio? Est-ce qu'il y a une ambiance dans le studio de Petit Biscuit qui est particulière quand tu produis?
Moi, déjà, j'ai fait beaucoup de feats avec des gens qui chantent, pas vraiment de production. Donc, le seul producteur avec qui j'ai fait un feat, c'est Môme. Et c'était une ambiance particulière, carrément, parce que on s'est rencontrés sur le festival et on parlait pas que de musique, tu vois, on parlait surtout d'autres choses. Après on en est venu à la musique et on s'est dit que ça serait cool qu'on fasse un truc ensemble. Ça s'est fait vraiment naturellement il y a toujours quelque chose de décontracté, d'un peu tranquille hors du monde quand je compose. Et pour la plupart des tracks avec les chanteurs, en fait, ça s'est fait principalement à distance. C'est compliqué, c'est beaucoup de gens qui vivent à Los Angeles et tout ça, tu vois, c'est plus compliqué, disons, de vraiment trouver du temps pour pour produire la track. Moi, je suis beaucoup en tournée, eux aussi.
Et tu les associes justement sur certaines de tes dates quand tu es en live, tous ces artistes? Est-ce qu'on peut s'attendre justement à ce qu'il y ait un live un jour avec tous ces artistes mobilisés auprès de toi?
Bah ouais, je fais en sorte de pouvoir les associer dès que possible. Mais ça serait vraiment plus intéressant, c'est sûr.
Un petit mot pour finir, Mehdi, un artiste nourrit sa musique de ce qu'il vit, de ce qu'il voit. Alors évidemment, tu as vécu plein de choses en un an, notamment avec la tournée où tu voyages à travers le monde. Est-ce que tu as l'impression que ta musique et les nouveaux titres sur lesquels tu travailles en ce moment commencent à évoluer? Et si oui, dans quel sens?
Ouais, énormément. Et je commence déjà beaucoup à chanter. Il se passe vraiment des trucs différents dans les titres, je pense, même si je garde toujours ce côté... Vachement, comme je te disais tout à l'heure, poétique, dynamique, un peu pop. Mais j'essaye d'expérimenter d'autres choses pour partir de plus en plus vers la maturité, tenter encore des nouvelles textures, trouver des nouveaux assemblages de musique, des choses qu'on n'aurait pas trop entendues. J'aime bien innover et c'est important dans la musique, je pense.
Novembre 2020. Antoine Baduel reçoit Clapton.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Clapton. Il fait partie de ces DJ dont on ne voit jamais le visage. Il porte un masque vénitien devenu célèbre, tout comme ces fameuses soirées Masquerade. Clapton a encore une fois triomphé au top 100 DJ alternatif en étant le numéro 1 de la catégorie House. Le DJ allemand, qui est venu plusieurs fois d'ailleurs dans nos studios, est avec nous ce soir dans la Happy Hour, où on accueille donc toute cette semaine les meilleurs DJ du monde. Et on commence donc ce soir avec Clapton. Guten Abend, Clapton, wie geht's dir?
Bonsoir, FG Radio. I'm good, thank you.
Alors, d'abord Clapton, revenons avec toi sur les fameux classements du Top 100 DJ Mag. Une belle progression de 12 places au Top 100 DJ. Tu es 41e désormais, mais surtout dans le Top 100 alternatif. Tu arrives 3e au classement général et 1er dans la catégorie House. Ça fait 4 ans de suite. C'est beau comme reconnaissance du public sur plusieurs années, ça quand même.
Yeah, it surprises me every time again and again, every year.
Cela me surprend à chaque fois, encore et encore, chaque année. C'est vraiment incroyable de savoir que les gens soutiennent ma musique, adorent venir au show quand il y en a, et même apprécient les streams.
Alors, en réaction à ce prix, tu as d'ailleurs posté un message de remerciement sur tes réseaux sociaux. Tu indiques d'ailleurs que cette distinction signifie encore plus de choses pour toi cette année. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus?
Avec l'épidémie de Covid autour de nous, c'était très différent pour moi par rapport à l'année dernière, depuis le mois de mars. Je faisais des dates chaque semaine et soudainement cela s'est arrêté. Et je ne pouvais pas être avec mes fans. Je ne pouvais plus jouer pour une foule. C'était une sorte de sentiment terrible de seulement pouvoir leur proposer des live streams. Quand tu es DJ, chaque week-end, tu vois tes fans et chaque week-end, tu joues pour des gens qui veulent passer un bon moment. C'était vraiment une chose bizarre. Et donc, ce fut encore mieux pour moi de réaliser que les gens n'ont pas oublié Clapton. Les gens ont apprécié les streams, ils ont aimé la musique, ils ont adoré les mix et ils pensent encore à moi.
Et c'est évidemment une année très particulière pour tout le monde. Et étrange même pour les DJ qui, d'ordinaire, enchaînent les clubs et les festivals tout l'été. Là, rien de tout ça. Alors, comment tu te sens là, toujours avec toujours cette vie nocturne à l'arrêt partout dans le monde? Est-ce que, comme c'est le cas pour de nombreux DJ, tu en as profité de ce temps libre de ces derniers mois pour produire plus de sons?
Yes, in fact, I did. Yeah, it's.
Oui, c'est le cas. J'ai tellement produit de titres qu'il y aura un album l'an prochain. Je sortirai des sons assez tôt l'année prochaine et je pense que c'est les meilleures tracks que je n'ai jamais faites parce que d'un coup, j'ai eu tellement de temps que j'ai pu travailler avec tellement de gens et à la fin, j'ai terminé tellement de chansons donc j'ai pu choisir les meilleures pour mon 3e album à venir. Et oui, ce sera incroyable.
On sait que pour toi, jouer en live avec du public, c'est ce que tu préfères. Tu insistes d'ailleurs souvent sur l'amour pour le son, la musique, la fête. Est-ce que tu arrives déjà à te projeter, par exemple, pour une Masquerade en 2021? On imagine que l'ambiance sera exceptionnelle lors des premiers festivals qui auront lieu quand ce sera possible. T'arrives à y penser, à rester positif?
De temps en temps, c'est compliqué. C'est lourd pour soi et c'est lourd pour les gens qui veulent faire une bonne fête et voir de bons DJ. C'est pesant dans les deux sens. Donc quand ce sera fini, ce sera incroyable et on fera les meilleures soirées de notre vie.
Enfin, pendant le confinement, on a découvert aussi un Clapton qui maîtrise très bien la cuisine, aussi bien que les platines, grâce aux épisodes Clapton's Quarantine. La musique, c'est comme la cuisine, c'est un domaine qui t'intéresse particulièrement. Du coup, je le découvre. Tu serais bien vu faire ce job si tu n'avais pas été DJ.
J'aime cuisiner pour le plaisir à la maison quand j'ai le temps. Et là, je n'ai jamais eu autant de temps. Mais je pense que c'est vraiment différent d'être chef dans un restaurant. C'est beaucoup de pression et un métier très compliqué. Probablement, j'échouerai. Mais j'admire cela, c'est un art et j'ai une passion pour la bonne nourriture.
Merci Clapton et encore une fois bravo. On rappelle numéro 1 de la catégorie House dans le top 100 alternatif de DJ Mag. Après David Guetta hier, numéro 1 du top 100 mondial. Et bien les meilleurs DJ sont sur FG cette semaine puisque Charlotte De Witt, première du top 100 alternatif, sera dans l'Happy Hour pour nous cette semaine. Pour cette semaine exceptionnelle, ce sera demain soir. Clapton, once again, congratulations.
Merci beaucoup.
Merci mon ami, à bientôt. Merci beaucoup, c'était Clapton mon invité ce soir sur FG.
Février 2018, Antoine Baduel reçoit Alvan.
Imaginez l'électro du français Fakir. Ajoutez à cela une bonne dose de vitamine C et ça vous donne la musique d'Alvan, un jeune producteur qui vient de remporter le concours BPM Contest 2017. Il vient de Rennes, il aime les sonorités planantes, les instruments, il distille une électro très ouverte sur le monde et très énergique et il est avec nous ce soir sur FG. Bonsoir Alvan et bienvenue sur Radio FG.
Salut Antoine, merci beaucoup.
Alors Alvan, je l'ai dit, hein, t'es le grand vainqueur du BPM Contest. Comment t'as abordé ce concours? Avec la rage de vaincre ou davantage pour te faire connaître et avoir le retour, l'impression d'un jury, du public sur ton travail?
Pour moi, c'était avant tout l'occasion de jouer à Paris déjà, parce que je n'y vais pas souvent. Et c'est vrai que je l'ai vu plus comme une occasion de montrer ma musique aux gens, aux Parisiens. Et puis, voilà, avant toute chose, c'était vraiment pour aller à Paris et puis jouer ma musique. C'était une occasion super, quoi. Après,
comme Fakir, superpose, c'est-à-dire que tu nourris ta musique de samples assez exotiques, parfois orientaux, parfois asiatiques, très planant toujours. Quel univers, dans quel univers tu puises et comment tu chopes tous ces samples que tu fais quand tu construis tes morceaux?
Alors, ça peut dépendre. En fait, pour moi, tout est travaillable, dans le sens où si j'entends quelque chose sur YouTube qui peut me plaire, je le sample directement. J'aime bien aussi créer moi-même mes samples avec mes instruments ou avec des percussions. Après, j'ai différents... dans les influences, il y a les influences électro, les influences world et les influences rock. Ouais. Et c'est vrai que j'essaye de concocter un mélange qui fait que c'est ma patte, quoi.
Alors maintenant que ce BPM Contest t'a révélé, forcément il y a une suite, quelle va-t-elle être? Il va y avoir un single, un album, un dispositif scénique?
Alors là, pour le coup, je prépare un EP. On aimerait bien le sortir avant l'été. Je pense que ça va se faire comme ça. Et je suis aussi programmé sur le Delta Festival à Marseille qui aura lieu le 7 juillet.
Octobre 2021, Antoine Baduel reçoit Parawan.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Parawan. On le connaissait, DJ, producteur, compositeur. On le découvre, réalisateur. Parawan, qui sort demain en salle son film Spectre, qui s'inscrit dans le cadre d'une trilogie formée autour d'un album qu'il était venu d'ailleurs nous présenter juste avant l'été, de ce film et d'un nouveau live. Voilà cette trilogie. Parawan qui nous raconte dans ce long métrage une histoire intime et toute personnelle. C'est mon invité ce soir de l'Happy Hour. Bonsoir Jean-Baptiste, comment
Bonsoir,
tu vas?
Bonsoir, ça va super bien.
Alors déjà, on t'avait reçu juste avant l'été avec la sortie de ton album. Première étape, tu nous l'avais dit à l'époque, hein, d'une trilogie qui s'appelle Spectre. Voici venu le film. Une étape assez normale finalement pour un gars qui a fait aussi des études de cinéma à la FEMIS, il faut le rappeler. Mais un premier film qui finalement vient tardivement dans ta carrière. Alors pourquoi est-ce que tu repoussais l'échéance? T'avais peur de finaliser cette étape ou alors t'avais tout simplement pas le temps?
Alors au début j'avais pas le temps parce que tout simplement en sortant de la FEMIS je me suis mis à tourner beaucoup, à mixer beaucoup, à jouer un peu partout et j'allais pas refuser ces opportunités, mais aussi je pense qu'il m'a fallu du temps pour, comme tu l'as dit, le sujet est très intime, il a fallu du temps pour découvrir ce que je raconte dans le film, pour presque enquêter sur ma propre histoire ou l'histoire en tout cas de mon personnage et pour m'autoriser à le faire, quoi. Donc je travaillais avec Céline Sciamma pendant des années sur un scénario qui finalement n'aboutissait pas parce que je n'en savais pas assez. Et quand j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'avancer tout seul comme un réalisateur de documentaire, ça a commencé à prendre forme.
Alors ce film, je commence à voir que tu le mûris en revanche depuis des années, depuis des décennies même. Autrement dit, c'est un peu un millefeuille à la fois d'intentions, d'émotions, de questionnements, d'hésitations. Il est sorti dans la douleur ou alors finalement dans la douceur?
Il sort dans la douceur aujourd'hui, mais il y a eu de la douleur, enfin de la douleur toute proportion gardée. C'est pas non plus la grande pénibilité au travail, mais c'est vrai que ça a eu beaucoup de doutes en fait, beaucoup de peurs, etc. Et elles sont aussi dans le film, elles sont mises en scène dans le film d'une certaine façon. Donc je les assume, mais ça a été un parcours tellement long. Effectivement, moi ça fait 20-25 ans que je filme un peu compulsivement mes proches, ma famille, ma vie quotidienne, mes voyages. Et j'avais donc toutes ces images.
T'avais combien d'heures au total?
Ça doit faire entre 200 et 300 heures de rush, un truc comme ça. Enfin, c'est monstrueux. J'ai essayé de calculer dans un disque dur géant qui contient tout, mais c'est comme une sorte d'énorme mémoire externe, quoi.
Mais c'est ça, c'est un millefeuille vraiment d'émotions et d'intentions. Alors, explique-nous en quoi ta musique croise le chemin du cinéma. Parce que, au-delà de la bande originale, le son a un rôle absolument central dans le film. C'est le début d'une quête, en fait.
Oui, parce que c'est vrai que j'ai étudié le cinéma, en fait, assez tardivement. J'ai voulu faire de la musique depuis l'enfance, presque. Et j'avais des rêves de musique qui étaient un peu un drôle de mélange entre des envies de musique électronique, mais aussi de musique sacrée, parce que j'avais grandi en écoutant énormément, ce qui est révélé dans le film aussi. En fait, j'essayais d'aller à la recherche des origines de l'inspiration, et en suivant cette route, j'ai découvert beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais au départ.
Parawan, mon invité ce soir, qui sort Spectre, son film qui s'inscrit dans une trilogie formée autour d'un album qu'il est venu nous présenter avant l'été, et d'un live dont on va parler dans quelques minutes. Alors, Jean-Baptiste, sans trop dévoiler le film, on suit l'histoire de Jean et de sa famille en prise avec des dérives sectaires, et on comprend que Spectre, c'est l'œuvre d'une vie aussi artistique qu'introspectif. Alors évidemment, quand on est dans l'intime comme ça, il faut aussi le rendre universel, ou tout au moins public, j'allais dire, un prompt à intéresser à la fois le public, mais aussi de communiquer, de partager, de transmettre ses émotions. Comment tu t'y es pris?
Alors justement, ça c'était un peu ma grande question. Je me suis dit, mais qui ça va intéresser à part moi et éventuellement trois personnes de ma famille, quoi, ou mes meilleurs amis éventuellement. Et en fait, j'ai un peu testé, quoi. J'ai commencé à le montrer un peu autour de moi, monter des versions primitives du film. C'est un film qui s'est beaucoup fait au montage avec Julien Lachette.
Bien sûr, parce qu'en plus, avec 200 heures de rush,
ouais,
évidemment,
c'est monstrueux.
Tout repose dessus.
On écrivait, enfin, j'écrivais ou j'improvisais parfois même la voix off au montage. Donc, ça a été un travail qui durait sur une période d'un an, ce qui est énorme en fait pour un montage de long métrage. Et en le testant, en le projetant, y compris à parfois des techniciens qui étaient là pour l'étalonnage et tout ça, je me suis rendu compte que certaines personnes commençaient à vraiment comprendre et à adhérer, ouais. Alors, malgré l'étrangeté de la façon dont c'est présenté, puisque c'est entre réalité et fiction, dès le départ, c'est dit. Donc ça, c'est pas forcément très courant au cinéma. Ça se fait beaucoup en littérature, mais au cinéma pas si couramment.
Et puis surtout, on sait pas quelle est la part de réalité et quelle est la part de fiction. C'est ça qui est bien aussi.
Voilà. Moi, mon travail, c'est d'encoder et pas de décoder.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
C'est de laisser toujours le flou, et finalement, c'est une espèce de troisième voie, je vais dire entre guillemets. Tu vois. Alors, au-delà de l'histoire de ton film, toute personnelle, les images sont tirées bel et bien du monde réel, hein, si j'ose dire, avec des moments filmés en famille. On est presque dans la team. Alors, on la gère comment, à titre personnel, cette mise à nu avant la sortie du film?
Il faut faire confiance à son intuition, respecter l'intimité de chacun et travailler avec beaucoup de pudeur, quoi. Après, moi, chaque fois qu'une personne apparaissait dans le film ou était sur le point d'apparaître dans le film, je lui présentais les choses, je lui montrais les images, je lui demandais son avis. Et certaines personnes ont refusé d'apparaître, donc elles ont été anonymisées, prénoms changés, etc. Donc parfois, j'ai dû recourir à la fiction aussi pour protéger ou pour respecter en tout cas le choix de certains. Et d'autres ont accepté complètement de faire partie de l'histoire. Et donc c'est assez joli.
Oui, là aussi,
en fait,
finalement, quelque part, il y a une dualité qui s'est imposée à toi aussi,
ouais,
d'une certaine manière,
ça,
entre ceux qui ont consenti.
Ouais.
À céder leur droit à l'image, comme on dit, et
ouais,
puis d'autres au contraire qui voulaient pas, donc forcément qui t'ont obligé à reconstruire quelque part cette...
Et ça m'a forcé à la fiction, ce qui était en fait une bonne chose.
Alors Spectre, c'est une trilogie, on le disait, avec l'album qui est déjà sorti, ce film qui voit le jour, puis une tournée avec un live, et à mesure que tu dévoiles chaque partie, on comprend l'histoire finalement, et en même temps on baigne dans le flou. Alors il va ressembler à quoi, ce live? Est-ce qu'il va nous amener des éclairages et répondre à nos questionnements, ou au contraire il va entretenir le flou, parce que finalement c'est ça le propos de Spectre?
Alors il entretient bien le flou, je pense.
Ouais.
En fait, le live, mon idée de départ, c'était, j'ai travaillé avec Camille Duchemin, qui est une scénographe très brillante, et l'idée de départ, c'est, bon, t'as vu le film, t'as peut-être vu aussi les clips, t'as écouté l'album, et puis tu rêves, ou t'es dans un état un peu second, et là, le live, c'est cet état second où on reprend les mêmes éléments, mais dans un autre ordre, et qui raconte encore une troisième histoire, pour avoir une triangulation sur la même idée, en fait. C'est typiquement, le live, c'est un moment de rassemblement, c'est un moment éventuellement d'euphorie, ou en tout cas de partage collectif, et j'avais pas envie d'être théorique et de trop narratif. Il faut que chacun puisse s'approprier.
Il y a un quatrième point dont il faut parler, c'est quand même, on parle de l'album, ok, du film, du live, mais il y a la bande originale du film aussi, et là pour le coup c'est ce qui crée un peu le vocabulaire entre tous ces éléments. On sait que t'es un habitué évidemment à composer, toi, pour le cinéma, puisque c'est vraiment ton esthétique. L'exercice a dû être bien plus compliqué quand il s'est agi de ton film. Alors, est-ce que la musique, elle est au service de l'image, ou alors tu as réalisé le film avec le son déjà en tête et le rythme à donner?
Alors, de la même façon que l'album est sorti avant le film, la musique de qui est dans le film existait déjà avant. Elle existait. Je l'ai composée au fur et à mesure de l'écriture, et au fur et à mesure de mon enquête, et au fur et à mesure de mes voyages aussi, qui sont aussi montrés dans le film. Donc le film raconte aussi comment je l'ai enregistré, tout ça est complètement tressé ensemble sur une très longue période.
Voilà, en tous les cas, une histoire intime, familiale, une quête d'identité. Voilà pour le film qui est signé par Awan, qui sortira demain. Nouvel acte de sa trilogie Spectre. Le premier fut un album sorti avant l'été, baptisé Machines of Loving Grace. Et donc, on aura donc le plaisir de voir ce film à partir de demain et le live. Est-ce qu'on a déjà d'ailleurs des idées, des dates, des salles?
Alors, c'est une période très étrange, comme tu le sais très bien. Le Covid nous a beaucoup bousculé. J'ai moi-même eu le Covid et je n'ai pas pu le faire à la Cité de la Musique comme je devais le faire au début de l'été. Mais en fait, on est en rodage, on a commencé à le jouer. On a été à Scopitone, au Festival International du Film de Bordeaux aussi ce week-end, pour faire des sortes d'avant-premières de ce live. Et puis après, on va commencer à tourner. Mais le métier a été quand même assez bouleversé. Donc, on essaie de remettre les choses dans l'ordre. Voilà. Sans doute au printemps, ça va
on
commencer à bien se développer.
On remet les pièces du puzzle dans le bon ordre.
C'est ça.
Et c'est ça, Spectre.
Novembre 2017. Antoine Baduel reçoit Petit Biscuit.
Et nous sommes fiers ce soir d'accueillir Petit Biscuit pour cette émission exceptionnelle. Je vous le rappelle, c'est un artiste qui a été révélé par la playlist d'Hakim Akli 11 mois avant sa diffusion sur une autre radio. Ses tubes et tant d'autres, on les retrouve dans un album aujourd'hui, Présence, ou plutôt, ça sera à partir de demain, puisqu'il sort demain. Mehdi, alias Petit Biscuit, est mon invité ce soir de la Piawer. Bonsoir Mehdi, bienvenue à toi.
Salut, ça va?
Bah écoute, ça va très bien. Moi, je suis très heureux en tous les cas de faire cette émission spéciale avec toi. Ravi et merci en tous les cas d'avoir réservé ce premier accueil à Radio FG. Demain sortira donc Présence. On va en parler. Et c'est pas une date au hasard, hein, puisque tu es né un 10 novembre. Tu fêtes ton 18e anniversaire demain. Tu voulais t'offrir ce petit cadeau?
Ouais, c'est un cadeau un peu spécial. On n'a pas tous l'occasion de s'offrir un petit album comme ça comme cadeau. Donc...
Bah c'est vrai que c'est un souvenir ravi pour le coup. C'est impérissable. Ouais. Hein,
ouais, je vais m'en rappeler, je pense.
Alors, ta vie, elle a été bouleversée depuis le succès de Sunset Lover. J'ai lu d'ailleurs dans la presse que tu déclarais avoir pris plusieurs années en quelques mois. Avec le recul, comment tu l'analyses, ce succès?
Bah, même avec du recul, c'est compliqué vraiment d'analyser un succès. Je disais Sunset Lover, c'est un morceau qui parle à tous parce que c'est une espèce de guitare-voix avec des voix qui chantent pas vraiment grand-chose au final, mais c'est plein de gimmicks, plein de choses qui restent en tête. Je pense que c'est ça, tu vois. Après, moi, j'ai tout essayé de construire autour de mon image et autour de, tu vois, créer un univers. Ça passe par plein de choses, par la communication, etc. Et je pense que ça joue aussi un petit peu.
Et c'est pas évident, hein, quand on a 16-17 ans, de construire un univers, aussi de le transmettre. Moi, ce que j'ai lu aujourd'hui, alors c'est marrant parce qu'on préparait l'interview, j'ai lu que tu étais l'artiste français devant tous les autres qui avaient généré le plus de streams, le plus de clics dans le monde. Est-ce que ça t'a changé justement ce genre de sentiment? Ça doit pas être, c'est pas neutre quand même de se dire tout à coup, je suis l'artiste français qui a généré le plus de streams.
C'est spécial, ouais, c'est bizarre, c'est difficile à se dire. Comme ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez exceptionnel et j'espère continuer dans ce sens. Après, moi je m'attache pas trop aux stats et c'est vrai que ce qui est assez exceptionnel, c'est que même quand je vais aux États-Unis, que quand je vais en Europe, il y a plein de gens qui sont là à mes concerts et c'est là vraiment que je vois les gens qui sont là à l'espoir d'avoir.
Alors on en parlera tout à l'heure à la fois de l'album et des concerts. Cet album Présent sur lequel on retrouve 14 titres. Alors évidemment parmi lesquels Waterfall, Sunset Lover bien sûr. C'était quoi ton ambition avec cet album? C'était à la fois d'offrir un cheminement longuement mûri parce que quelque part finalement il y a eu un long délai entre la sortie, la composition j'allais dire d'Iceland, sa sortie auprès du grand public, le Sunset Lover. Finalement tout cela ne s'est pas fait d'un seul coup parce que ça a été aussi ça la magie. Ça a été vraiment un environnement qui s'est créé sur le temps, en douceur, et qui a vraiment fait une lame de fond.
Ouais, bien sûr, et même qui se crée encore, et j'espère pouvoir imposer ça avec présence, c'est-à-dire en un an et demi, s'est passé des choses exceptionnelles entre la tournée, entre l'explosion de Sunset Lover. J'ai fait plein de rencontres, que ce soit des fans, que ce soit des gens dans la musique, et je pense que j'étais inspiré de tout ça pour créer quelque chose d'à la fois garder ma petite naïveté, tu vois, qui me représente du haut de mes 17 ans, enfin bientôt 18.
Très bientôt.
Ouais, très bientôt, c'est clair. Et puis en même temps, apporter ce côté plus mature à la musique qui est peut-être plus sombre.
Oui, et puis j'allais dire aussi une autre synthèse, celle finalement de ton background de musique classique, de conservatoire et de son venu d'ailleurs.
Ouais, c'est un album que j'ai voulu créer genre hors du temps, tu vois. Ouais.
Alors on l'a dit, hein, ta musique elle est identifiable, ça c'est très intéressant. Alors tu as ce talent d'avoir inventé quelque chose, inventé un son. D'ailleurs c'est marrant parce que souvent maintenant quand on entend des nouveautés sur internet, on a tendance à dire ah oui ça c'est comme Petit Biscuit. Alors ça fait quel effet de se faire comme ça un peu, de devenir une espèce de muse, de modèle d'une identité sonore, d'être aussi copié, beaucoup copié par les autres, soyons francs. Comment tu vois ça, cette course à faire des morceaux à la Petit Biscuit? biscuit, ça t'énerve, ça t'honore?
C'est vrai que, enfin moi, je fais pas trop gaffe à ce genre de choses. J'ai pas l'impression qu'on me copie parce que je sais pas c'est quoi me copier exactement. Et moi, je vais toujours de l'avant à chercher des nouvelles influences, à réfléchir un peu sur la musique que je vais faire, le futur de mon projet. Donc du coup. C'est vrai que j'ai pas envie qu'on pense que je me copie parce qu'il y a toujours une suite musicale à Petit Biscuit qui sera différente des morceaux que j'ai fait avant, tu vois.
Alors, il y a aussi, c'est intéressant parce qu'il y a cette dualité à la fois entre classique et nouveau son, peut-être un peu organique, en tous les cas autre chose. Et puis une autre réalité, c'est celle de la manière dont ça s'est construit. L'année dernière, tu as obtenu ton bac S avec mention très bien. Donc il y avait bravo, tes parents ils ont dû être bien. Super fiers, c'est génial. Mais en même temps, c'était aussi un double cheminement, celui d'un lycéen finalement. Qui avait un cheminement, un aboutissement de passer son bac et en même temps une carrière qui démarrait mais sur les chapeaux de roue.
Ouais c'est vrai, exactement, ça a été beaucoup de... J'avais pas beaucoup de temps pour préparer cet album, ça se faisait souvent des nuits où je rentrais chez moi et entre deux concerts ou entre deux rendez-vous ou quoi.
Ou deux révisions.
Deux révisions aussi, je vais pas mentir, je révisais pas énormément mais en tout cas ouais c'était j'avais pas beaucoup de temps et du coup j'étais frustré et je pense que l'album aussi il est né de cette frustration où tout m'est venu en tête en amont et c'était quelque chose de réfléchi, j'avais le temps de prendre du recul sur mes compositions et...
Moi je voulais savoir si ça aidait quand on avait à la fois ses facultés, une formation, un background à la fois scientifique mais aussi de conservatoire, est-ce que dans la manière de concevoir, de gérer l'ordinateur ça a une incidence musicale et artistique?
Alors premièrement ça aide parce que normal, il faut un peu de technique je pense pour se libérer, mais enfin, il faut de la technique pour s'en libérer, pour vraiment se concentrer sur l'artistique. Et non, ça n'aide pas forcément parce que justement parfois on se perd dans le côté un peu trop technique. Et moi j'ai dû désapprendre certains trucs pour créer une musique un peu plus humaine, parce que c'est vrai que c'est vachement carré la pratique musicale.
Alors musicalement, si tu devais caractériser, donner un mot finalement qui présente cet album, quel mot serait-il?
Je dis souvent, mais je pense que c'est approprié, c'est schizophrénique, parce que genre c'est un mélange de... On peut passer de la plus pure poésie au déchaînement le plus total dans un même album, tu vois.
Alors tes sons, évidemment, ils reposent sur l'instrumental, et j'allais dire aussi sur l'instrument, parce que tu joues du piano, de la guitare, du violoncelle. C'est la mélodie ta porte d'entrée dans cet album?
Ouais, j'ai toujours été très concentré sur la mélodie, je pense que c'est tout à fait normal.
Môme, Isaac Delusion, qui figure au rang des featuring sur cet album. Je vais pas tous les citer, en revanche, il y en a beaucoup. Et ça, c'est intéressant. Comment t'as fait tes choix?
Ça a été des choix. En même temps, ça a été aussi des opportunités, des occasions. Avec Môme, on se voyait souvent sur la tournée. Donc forcément, t'es un peu devenu pote de tournée. Puis ça s'est fait naturellement. On s'est dit, on va collab.
Faut bien qu'on fasse ça, quoi. Ce sont des voix que t'es allé chercher. Ce sont des voix qui se sont proposées à toi. Ça s'est passé quoi?
Alors voilà, pour les collaborations vocales, du coup, c'est vrai que ça dépendait vraiment du cas. Et, par exemple, avec Lido, le titre problème qu'on a sorti hier. Du coup, on s'est vu sur Paris et ça s'est bien passé. C'est un producteur de base je lui ai fait écouter une track un peu funk et il m'a dit vas-y, je vais essayer de chanter dessus. J'ai fait mais mec, t'es pas un producteur, t'es pas un chanteur et tout. Il m'a dit t'inquiète, je t'envoie un truc. Deux semaines plus tard, il m'a envoyé un truc ultra, ultra léché et tout, comme ça, avec un bon flow. Il a une voix ultra particulière qui un peu R&B qui colle super bien à la prod. Donc j'ai décidé de garder. En général, c'était des gens qui avaient un peu la même vision que moi, c'est-à-dire il fallait être à la fois pro, un peu rapide, et proposer quelque chose de particulier, que ce soit
intuitif aussi en même temps.
C'est un peu intuitif au final.
Comment, alors tu nous parlais tout à l'heure, bon on le voit bien, tu as à la fois une culture de conservatoire, une maîtrise de l'outil, de l'ordinateur impressionnante. Comment on décline ça sur scène en live?
On essaye d'en faire et pas d'en faire trop. Je pense c'est un équilibre, c'est-à-dire moi je ramène mes instruments sur scène, la guitare, des percussions, plein de petites machines électroniques aussi. Et c'est un live hybride si tu veux.
Mais tu seras seul, tu vas être accompagné ou tu vas vraiment occuper la scène seul?
Parce que je vais occuper la scène seul, ouais exactement. Et je trouve ça intéressant. Je pense que les gens m'ont connu seul et que c'est bien de faire ses marques tout seul. Et puis voilà. Après j'essaye de vraiment être en contact avec le public, c'est-à-dire à la fois faire pas mal d'instruments pour qu'il se passe quelque chose visuellement, mais aussi être à fond avec les gens, c'est ultra important.
Alors il faut le préciser, hein, une tournée qui va se dérouler à partir de très bientôt, puisque ce sera très prochainement. Là, c'est ce que j'allais dire, c'est la semaine pro. Ouais. Les Zéniths, ça va démarrer à Lille et puis ensuite Nantes, Toulouse. Toulouse, Paris, Rouen en février. Comment tu prépares tout ça? Tu nous parlais tout à l'heure d'un univers Petit Biscuit. On va le retrouver aussi, ouais. ce sentiment d'univers?
Oui, bien sûr, c'est un show tout d'abord musical, mais aussi très visuel. Je joue beaucoup avec les lumières et j'ai une bonne équipe technique qui m'accompagne pour ça. C'est une expérience. J'ai envie que ça soit une expérience, en tout cas. Il y aura plein de morceaux que j'ai pas sortis. Il y aura des morceaux de l'album, des anciens morceaux retravaillés, des nouveaux morceaux retravaillés, un peu de tout, quoi, tu vois.
Ah oui, carrément. Il faut s'attendre à revisiter, en fait, les classiques comme Iceland.
Ouais, c'est ça. C'est une expérience, c'est ce que je dis.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les speeder davantage? C'est-à-dire, bah, forcément, il faut tenir le public en haleine.
Carrément, ça va être un show.
Tu vas faire ton vénère?
Ça va être un show dynamique, si tu veux. Je vais garder le petit côté poésie. En fait, j'ai envie de remplir le show de surprises et de jouer, par exemple, sur les gimmicks que les gens connaissent, sur des choses que les gens connaissent moins, sur des paroles, etc., tu vois.
Janvier 2021. Antoine Baduel reçoit The Magician.
Connaissez-vous The Magician?